Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. C'est Maître Marc Bellemare qui me fait rire pendant la pause. Là. Bonsoir, Maître Bellemare.
Hey, je te fais rire. Mes clients me disent jamais ça, que j'ai fait rire. C'est tout le temps tellement triste quand ils me racontent leur histoire que c'est pas le temps de rire, mais quand je fais la chronique avec toi, j'ai plus de temps pour rire, effectivement.
Ben. Hey, Maître Bellemare, deux choses. La première, sondage numériste, on n'a pas eu le temps de se parler de ça. J'achalerai pas les auditeurs avec ça, mais je pense que c'est important de reconnaître les joueurs importants de mon équipe. Marceau, le soir, quand je suis arrivé sur les ondes de Boulevard, on était en 8e ou 9e position. Et là, en deux sondages, on est rendu en troisième position, Maître Bellemare. Donc, un gros merci de faire partie de cette équipe-là qui ne cesse de progresser puis qui plaît comme formule aux auditeurs de Boulevard. C'est une progression qui est incroyable. Les patrons ont pris la peine de me le dire personnellement. Fait que je me sens choyé, mais je me sens aussi choyé d'avoir des collaborateurs comme vous depuis plusieurs années qui sont extrêmement fidèles, qui sont adorés des auditeurs. Puis ces positions-là qui grimpent année après année. Ben, c'est grâce à des gens comme vous. Fait que je voulais vous dire un gros merci, Maître Bellemare, d'être avec nous à chaque lundi.
Ben, ça me fait plaisir. Puis là, depuis quand t'es à Boulevard, toi?
Là, ça va faire un an et demi certain. Là, ouais.
Donc, on a une belle collaboration qui date même d'avant, d'une radio concurrente avant, il y a un an et demi, mais ça fait peut-être 5 ans qu'on parle ensemble presque une fois par semaine.
Oui. C'est une belle relation qu'on a. Puis c'est rare qu'on ait la chance de jaser avec un avocat sans que ça nous coûte quoi que ce soit.
Ah ben là, c'est parce que t'as pas reçu mon compte.
C'est dans mal, hein?
C'est dans mal. C'est un des plus grands mensonges. C'est dans mal.
Oui.
Alors, non, inquiète-toi pas, il n'y a pas de compte, là. De toute façon, des comptes, je n'en envoie pas, moi. Même avec mes clients, c'est tous des mandats avec des conventions puis des paiements préétablis. Alors, écoute, ça fait une éternité que je n'ai pas envoyé un compte. Rare quand même, un avocat qui n'envoie pas de compte, mais
ben
c'est
oui.
Mon cas.
Ben oui, c'est ça. Donc,
ça ne veut pas dire que je ne reçois pas de chèque, là, mais...
Pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNSST, on va voir Maître Marc Bellemare chez bellemareavocat.ca. Autre chose à jaser avec vous, est-ce que vous connaissez le band de musique Papa Roach, Maître Bellemare?
Non, je connais pas, non.
C'est un band incroyable, là. C'est interplanétaire. Ils ont des fans partout. Et ce soir, après notre émission, ben moi, je vais descendre en bas pour rencontrer le chanteur ainsi que son guitariste qui va donner un concert assez intime. On parle à peu près d'une centaine d'auditeurs là, qui vont être avec l'équipe d'animation de Boulevard, qui vont avoir accès à ça. On fait ça avec la belle gang du Centre de prévention du suicide parce que dans les textes de Papa Roach, on parle de difficultés que peuvent connaître les gens qui pensent à mettre fin à leur jour. Puis on va passer une soirée ensemble, un bon 60 à 90 minutes avec les gens de Papa Roach qui sont présents à Québec depuis hier. Et je trouvais ça incroyable parce que Papa Roach, moi, je connais 2-3 tunes, les principales, ceux qui me font triper encore à ce jour. Mais de voir que des vedettes internationales arrivent à Québec et découvrent la ville de Québec quand il fait beau, avec une température qui est exceptionnelle comme celle qu'on connaît depuis les derniers jours, je trouve que c'est une belle vitrine pour notre belle ville. Il y a énormément d'artistes là, qui visitent Québec. Je me souviens, moi, de Billy Joel, je pense, il y a de ça quelques mois, qui est venu faire son tour à Québec. C'était supposé d'être l'hiver, mais au travers de l'hiver, il pleuvait un peu. Je trouvais ça triste. Mais de voir ces belles images-là qui se diffusent à travers le monde pour un artiste international qui est de passage chez nous, je trouve ça de toute beauté.
Oui, puis ça se passe où, l'événement?
Ça se passe directement en dessous des studios de Boulevard 102.1. Donc, c'est à
la scène... Dans un petit amphithéâtre, là?
C'est la scène Le Bourgneuf, oui. Il y a à peu près de la place pour 100 personnes assises. Puis, il y a une petite place là où moi, je vais me tenir, un genre de bar, là. Fait que je vais surveiller que l'alcool soit bien versé dans les verres puis qu'il n'y a rien qui s'échappe à terre.
Oui, puis je peux te dire que c'est très confortable. Hein. Il y a des sièges incroyables, d'un grand confort, un peu comme le cinéma Clap, là, des sièges très, très grands. Très confortable, alors tu vas avoir du monde heureux, certain.
Ben oui, puis pour les gens qui n'ont pas réussi à gagner des billets, parce qu'on a fait des gagnants pour ce spectacle intime-là, ben ils pourront, tout de suite après l'émission, là, le lien va être mis, là, je vous dirais peut-être vers 18h45, 19h, on va mettre sur notre page Facebook BLVD, on va mettre le lien YouTube pour entendre ce que nous, on voit et entend à l'intérieur de la scène Le Bourgneuf avec la belle gang gang de Papa Roach. Puis je trouvais ça drôle tantôt, quand j'ai fini mon émission, Maître Bellemare, il y avait déjà des auditeurs et des auditrices de la station qui attendaient l'arrivée du chanteur de Papa Roach à la porte en bas. Donc, des membres du fan club là, qui voulaient croiser le chanteur de Papa Roach. Donc, pour les auditeurs, puis pour nous aussi, c'est une journée exceptionnelle pour la station. C'est une belle vitrine, en fait.
Ben, bravo, félicitations. C'est toi qui as organisé ça?
Non, c'est pas moi qui ai organisé ça. C'est l'équipe d'administration puis la belle gang de la promo qui a organisé ça. Puis ils nous surprennent toujours là, de mois en mois avec les nouveautés pour promouvoir notre belle station. Fait que c'est à eux autres que revient le crédit. Question d'auditeur, Maître Bellemare, depuis combien d'années vous faites de la radio puis pourquoi vous vous êtes intéressé au médium de la radio?
Ben écoute, c'est parce que c'est facile pour moi de trouver du temps pour faire de la radio, surtout quand on est à distance, parce qu'on peut faire ça par téléphone aussi. J'ai commencé à faire de la radio, je te dirais, écoute, je n'étais même pas avocat, 78, quand je suis arrivé à Québec. J'ai commencé à CKRL, qui était la radio communautaire à l'Université Laval, c'était au pavillon de Coninck, dans le sous-sol. Après ça, j'ai travaillé avec CKCV à l'époque, de regretter mémoire, CKCV qui avait son antenne à Banque de Montréal, je crois, dans l'édifice de Banque de Montréal.
Au 150.
À Place Duville. Okay. Si tu te souviens de ça?
Ben, je pensais que c'était le 150 René Lévesque, là, mais si vous me parlez du gros
non,
édifice.
Non, c'était dans la tour, la plus haute tour de Place Duville. Je pense que c'est l'édifice Rose, là, qui, je pense que c'était la Banque de Montréal à l'époque.
Oui, effectivement. Oui.
Et puis tu montais en haut, puis tu montais les derniers étages par un escalier parce que l'ascenseur ne se rendait pas. Puis je faisais des chroniques avec Camille Sanson, qui était un ancien député créditiste qui avait été battu. Et libéral par la suite qui avait été battu et qui a fait de la radio à CKCV. Je l'ai suivi à CHRC, où je faisais l'émission du matin avec juste avant André Arthur, avec M. Sanson aussi. Après ça, CGRP, j'ai travaillé avec Mme Giguère pendant peut-être 2-3 ans.
Est-ce qu'elle est décédée, Mme Giguère? Lucille Giguère, est-ce qu'elle est décédée?
Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, elle est plus en antenne, elle est plus en onde depuis plusieurs années. Et après ça, ben, j'ai travaillé à CHRC, à Choix un petit peu, et éventuellement à Boulevard. Mais je peux te dire que j'ai toujours fait beaucoup de radio parce que j'ai toujours aimé ce médium-là qui est très personnel, qui rentre dans les maisons, dans les sous-sols, dans les chalets. Peu importe où on se trouve, ou à peu près avec Internet encore aujourd'hui, c'est encore plus accessible. Alors, j'aime beaucoup ce médium-là parce qu'on peut y accéder sans trop de préparation en termes de, tu sais, t'es pas comme à la TV où il faut que tu sois maquillé, puis il faut que tu sois tout habillé en fonction d'eux. Alors, on peut, tu sais, quand je te parle, des fois, je suis à Gaspé, des fois, je suis à Drummondville, des fois, je suis en Floride, des fois, je suis à New York, des fois, je suis à Montmagny, des fois, je suis à Québec aussi, des fois, je suis en studio, des fois, je ne le suis pas. C'est il y a une grande mobilité qui est permise par la radio, puis une grande proximité avec l'auditeur aussi. C'est ce que j'aime bien.
Oui, puis à la radio, effectivement, quand on travaille à Montréal, c'est plus formaté, mais Québec, c'est beaucoup moins formaté. Ça laisse place à des fois des sujets qui sont un peu plus légers plutôt que d'être toujours dans l'actualité avec des nouvelles qui sont extrêmement lourdes. Moi, j'adore faire de la radio, mais surtout, j'adore faire de la radio à Québec pour les gens de Québec. Je trouve que c'est exceptionnel ce qu'on vit à Québec avec les radios. Puis les auditeurs sont extrêmement fidèles. Donc, non, je suis content d'entendre votre arrivée en radio. Vous étiez déjà très jeune à l'époque. Donc, vous avez combien d'années de radio dans le coffre, Maître Bellemare?
Bien, ça fait 45 ans. Écoute, je suis avocat depuis décembre 79. Ça fait 45 ans cette année. Et je te dirais que j'ai pas mal toujours fait de la radio. Ça n'a pas toujours été de la même manière, avec les mêmes personnes. Mais j'en ai fait à CFLS aussi.
Oui.
CFLS Lévis avec Nicole Dion. On a eu pendant M. Lorrain aussi. Yves Lorrain, qui était directeur de la station. J'en ai fait pendant 4 ans, je pense, à CFLS avant que ça ferme. Tu te souviens, CFLS, c'était la grosse radio de la Rive-Sud, grosse radio rock.
Oui, il y a un auditeur
à Québec.
Qui
ça a été des belles années de la musique à Québec.
Ouais.
CFLS, je faisais une chronique à 11h30 le matin.
Il y avait un auditeur qui m'avait effectivement écrit en me disant qu'il était fan de Maître Marc Bellemare depuis l'époque CFLS. Mais que là, je me demandais ça faisait combien de décennies.
Hey, c'est bon, quand même.
Hey, Maître Bellemare, une nouvelle qui m'a marqué ce matin, puis d'ailleurs, vous me l'avez envoyée aussi, c'est les personnes qui ont été adoptées. C'est tout à fait normal de rechercher ses origines. Et pendant quelques années, c'était possible pour les gens qui avaient été adoptés d'avoir accès à leur dossier, mais seulement si leurs parents biologiques n'avaient pas inscrit de veto. Et là, il y a eu du changement à cet égard-là. Donc, c'est une nouvelle qui est émotive. C'est quoi le changement qui a été annoncé, Maître Bellemare?
Ben, c'est qu'à partir du 8 juin, le 8 juin étant samedi prochain, les personnes qui ont été adoptées au Québec et même à l'extérieur du Québec vont pouvoir avoir accès à leur dossier, même si les parents biologiques ne sont pas d'accord. Parce que depuis 7 ans, au Québec, tu as accès à ton dossier si tu as été adopté, mais à condition que tes parents biologiques y consentent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de veto à l'heure actuelle. Là. Au moment où on se parle, là, si moi j'ai été adopté puis je veux avoir accès à mon dossier pour connaître l'identité de mes parents biologiques, si eux ne veulent pas, ils peuvent empêcher que j'aie accès à ces informations-là. Mais à partir du 8 juin, cette interdiction-là va sauter de sorte que peu importe l'opinion des parents biologiques, j'aurai accès à mon dossier pour savoir qui ils sont et où ils sont. Alors, le blocage qui a été possible depuis 7 ans, je pense que c'était Philippe Couillard qui était premier ministre à l'époque, qui avait ouvert un petit peu les valves en disant, ben si tout le monde est d'accord, l'enfant va pouvoir avoir accès à son dossier, mais si les parents biologiques sont pas d'accord, parce qu'il y a des parents biologiques, tu comprends bien, qui veulent pas pantoute que l'enfant les retrace. Parce que l'enfant a été conçu dans un. Ça peut être suite à un viol, ça peut être suite à une
Exact.
relation amoureuse qu'on a cherché à oublier par tous les moyens possibles. Ça peut être dans certains cas parce que les parents ont fait une mauvaise vie. Ou bien ça peut être aussi parce que y a des enfants qui ont été adoptés, mais qui ont été en orphelinat avant d'être adoptés. Hein. Il y a des enfants qui ont été adoptés assez vieux, 5-6 ans. Et qui ont été en orphelinat avant, puis qui ont subi des sévices, et l'enfant pourrait être porté à reprocher aux parents biologiques de les avoir donnés en adoption. Alors, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent motiver un parent ou deux parents à ne pas vouloir que l'enfant qu'ils ont eu il y a plusieurs années les retrace. Mais maintenant, ça compte plus. Par contre, malgré le fait qu'il y aura accès au dossier, et aux informations relatives au père et à la mère, il sera possible pour les parents biologiques d'imposer un refus de contact, c'est-à-dire de faire en sorte que même si l'enfant connaît l'identité des parents biologiques, qu'il ne puisse pas accéder aux parents biologiques, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas les contacter. Donc, il saurait c'est qui leur père et leur mère, mais il y aurait une interdiction de les contacter, ce qui s'appelle un refus de contact. Ça sera pas facile à appliquer dans les faits parce qu'à partir du moment où l'enfant sait où sont les parents biologiques, normalement, s'il est un peu débrouillard, il va être capable de les rejoindre, mais il pourra pas accéder à ces gens-là, il pourra pas les importuner, les contacter, les questionner s'ils refusent et qu'il y a un refus de contact. Et il y aura des sanctions, semble-t-il, assez sévères pour un enfant qui persisterait à contacter les parents biologiques malgré leur refus. Mais c'est quand même une avancée. Moi, je trouve que c'est correct parce que c'est instinctif, c'est naturel, c'est normal de vouloir savoir d'où on vient. Quand tu as eu des parents que tu as connus depuis le début, c'est le fun, c'est facile, on est capable de connaître l'identité, ce qu'ils ont fait dans la vie, les grands-parents c'est qui, les arrière-grands-parents c'est qui, la généalogie, etc. Mais de ne pas savoir qui sont les parents que tu as eus, qui sont biologiques, d'où tu viens, c'est. En tout cas, moi, j'en connais quelques-uns qui ne savent pas, là, puis qui sont bien malheureux de ça.
Mais je trouve ça intelligent de l'avoir fait. J'aurais aimé que ces gens-là puissent avoir accès aux antécédents familiaux au niveau de la santé. Tu sais, exemple, une jeune femme qui ne sait pas d'où elle vient, qui est sa mère maternelle, est-ce que sa mère maternelle est décédée du cancer? Est-ce qu'elle est susceptible de développer du cancer? Tout le bilan santé
La
familial.
génétique.
La génétique est impossible à faire tant aussi longtemps que tu ne connais pas tes parents biologiques, mais sais, puis moi, j'ai pas été adopté, là. Mais ça doit être extrêmement cruel de se sentir abandonné en tant qu'enfant, puis par la suite, avoir la chance de rencontrer tes parents biologiques, puis d'apprendre une deuxième fois que tes parents t'abandonnent encore une deuxième fois, puis là, ben, t'es rendu à 30, 40 ans. Ça doit être épouvantable au niveau des émotions, ce que ces gens-là doivent vivre. Moi, je suis rempli d'empathie envers ces gens-là, mais je comprends pourquoi c'est fait. Puis effectivement, vous l'avez dit tantôt, il y a des enfants qui sont nés hors mariage, il y a des enfants qui sont nés en raison de crimes qui ont été commis à l'intérieur des familles. Mais je pense toujours aux enfants qui vont peut-être voir un refus supplémentaire de la part de leurs parents biologiques de ne pas vouloir les rencontrer. Ça doit faire mal, puis ça doit ouvrir des plaies qu'on veut pas qu'ils ouvrent, là.
Oui, puis il y a des enfants qui sont nés aussi de mères qui n'ont pas survécu à l'accouchement. Il y a des enfants qui sont nés suite à des agressions sexuelles. Il y a des enfants qui sont nés de mères qui étaient religieuses au moment où ils ont été agressés sexuellement ou qui ont eu des relations sexuelles consenties, même s'ils étaient au couvent. Il y a toutes sortes de situations. Écoute, on revient là. Mettons que tu as 60 ans aujourd'hui, que tu es né en 1960 et que, bon, à l'époque, il se passait bien des choses au Québec, mais les prêtres, les sœurs avaient des pouvoirs importants dans l'appareil système de santé, système d'éducation, et il s'est passé bien des choses, hein. Puis à l'époque où la religion était toute puissante, il y a bien des choses, il y a bien des secrets qui ont été gardés pendant toutes ces années-là. Et j'imagine qu'il y a même aussi des gens qui ont été adoptés, mais qui l'ont su très tard, puis peut-être que même il y en a qui ne l'ont jamais su. C'est pas évident, là. Il y a des parents, des fois, si tes parents sont morts, si tu étais adopté, tes parents sont morts assez jeunes, dans la trentaine ou dans la quarantaine, peut-être que tu ne l'auras jamais su. Si tu es enfant unique, surtout. Alors, mais si tu le sais, puis tu l'as appris alors que tu avais 35, 40 ans, puis qu'on te l'a toujours caché. Ça doit être assez traumatisant, merci. Mais des histoires comme ça, je me souviens Claire Lamarche à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de ça.
Ben oui.
Il y avait une émission sur les retrouvailles là,
Avis de
où on
recherche.
permettait à des parents de rencontrer leurs enfants, vice-versa, après 25, 30, 40 ans. C'était très, très chargé émotivement. Et puis, écoute, on n'a pas fini de voir des histoires incroyables là, parce qu'on parle de 30 000 à 70 000 personnes qui pourraient être visées par cette mesure-là. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont s'adresser au ministère de la Santé pour obtenir leur dossier. Et ça va prendre un certain temps parce que, comme tu le sais, tout ce que le gouvernement touche, ça prend du temps. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir des caseloads assez importants, mais on parle de 30 000 à 70 000 personnes qui seraient visées par cette mesure-là. Donc, des gens qui auraient finalement accès à leur dossier sans égard au fait que leurs parents biologiques aient tenté de les en empêcher. Alors, ça va prendre certainement plusieurs années avant que tout le monde puisse obtenir l'information sollicitée.
On m'a toujours dit que les questions niaiseuses n'existaient pas. pas toujours d'accord, mais je vais vous poser une question, Maître Bellemare. J'espère que j'aurai pas de l'air fou en vous posant cette question-là, mais on vit dans un drôle de monde en 2024 avec le fait que les enfants adoptés pourraient savoir qui sont leurs parents biologiques. Est-ce qu'il pourrait y avoir des poursuites entamées au civil? Pour dommages causés sur l'enfant?
Ben, c'est parce que les poursuites civiles sont prescrites par un délai de 3 ans, en principe, dans notre code civil. Ça veut dire que tu ne peux pas poursuivre quelqu'un si la faute a été commise il y a plus que 3 ans. En 2020, par contre, le gouvernement de la CAQ a modifié le code civil pour permettre à des personnes de poursuivre sans limite de temps des gens qui les auraient agressés sexuellement ou des gens qui les auraient battus ou qui leur auraient fait subir des sévices pendant l'enfance. Mais tu sais, poursuivre, non, poursuivre parce que tu as été donné en adoption, je pense pas nécessairement que ce soit une faute.
Traumatisme causé, des enfants qui ont eu de la
Ben, c'est
difficulté à se sentir aimés.
l'adoption cause pas de traumatisme, qui cause des traumatismes. C'est le suivi après l'adoption. Si tu tombes sur une mauvaise famille, mais à ce moment-là, c'est la famille qui t'a maltraité, qui devrait être poursuivi et non pas ceux qui t'ont donné en adoption.
Je comprends.
Si on t'a donné en adoption à l'âge de 3 mois ou à la naissance, c'est difficile d'établir que c'est l'adoption qui t'a causé un sévice. C'est plutôt la suite de l'adoption, les mauvais traitements subis au sein de la famille d'adoption ou de la personne qui t'a adopté, ça c'est une autre affaire. Mais j'imagine mal comment on pourrait voir une cour de justice condamner un père ou une mère simplement pour avoir donné l'enfant en adoption. De la même façon que les enfants qui ont été confiés à des orphelinats dans les années 20 ou 30 ou 40 parce que les parents n'étaient pas capables de s'en occuper, parce qu'il y avait une famille trop nombreuse, parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'ils étaient mentalement inaptes. C'est l'orphelinat qui a pu être poursuivi ou la famille qui a adopté l'enfant ou qui en a hérité et non pas la famille qui l'a confié à l'orphelinat ou à une autre famille, à mon avis. Alors, j'ai jamais vu de cas dans notre jurisprudence au Québec où le parent qui avait confié l'enfant en adoption à un orphelinat qui avait été condamné. Je connais aucun précédent, je suis convaincu qu'il n'y en a pas.
OK, je trouve ça intéressant comme réponse. Je m'attendais à ce genre de réponse-là, mais je me disais, en 2024, tout est possible maintenant. Donc, est-ce que des enfants qui ont été adoptés, qui ont vécu des difficultés personnelles sur le fait qu'ils se sont sentis rejetés par leurs propres parents biologiques, ben avec cette loi-là, ils peuvent avoir accès à qui était mon parent biologique, qui m'a fait subir ça, de me donner dans un orphelinat, puis d'avoir un sentiment d'abandon comme ça. Donc, je me disais peut-être que ça pourrait ouvrir la porte à des
Non, mais
poursuites, mais vous me
ça
dites non.
pourrait être possible, Yannick, si tu peux prouver qu'avant l'adoption, tu as été victime de sévices de la part de tes parents biologiques ou d'un de tes parents biologiques.
Ah, je comprends.
Exemple,
OK.
tu es né en 1960 et pendant les 3 premières années de ta vie, tu as souffert de malnutrition, de sévices, tu as été battu, tu as subi des traumatismes physiques ou psychologiques. Puis à 4 ans, on t'a confié à une famille d'adoption ou à un orphelinat. Alors, si tu peux prouver qu'avant d'être confié en adoption à un orphelinat, tu as subi des sévices dont tes parents biologiques pourraient être les auteurs, bien là, tu aurais un recours, sans limite de temps. Mais là, bonne chance pour prouver ça, là. Parce qu'écoute, on est dans les années 60 dans un système de santé qui était peut-être encore pire que celui d'aujourd'hui. Auquel bien des gens n'avaient pas accès, les archives imparfaites, la difficulté de prouver qu'un dommage physique ou psychologique a été causé par tes parents biologiques avant ton adoption, c'est tout un contre. Je te dis pas que c'est pas possible, mais ça prendrait un cas extrêmement particulier avec. Et faut pas oublier que les difficultés de preuve devant les tribunaux. Faut prouver des choses. Hein? Les gens pensent que parce qu'ils ont vécu quelque chose. C'est prouvé que c'est écrit dans le ciel. C'est pas de même que ça marche devant une cour de justice, là. Une cour de justice, ça prend des preuves, des probabilités, ça prend des documents, ça prend des examens médicaux, ça prend des expertises, parce que le juge condamnera jamais quelqu'un à payer une somme d'argent s'il n'y a pas la conviction que ce dommage-là existe véritablement et qu'il a été causé par telle ou telle personne. Alors, plus ça fait longtemps, surtout dans des histoires où on essaie de prouver qu'on a été victime d'une faute il y a 60, 70 ans. Oui, il n'y a plus de délai, mais ça n'empêche pas que les difficultés de preuve sont présentes. Et plus ça fait longtemps que l'événement est survenu, que le dommage a été causé, plus ça devient difficile de le prouver à cause que l'écoulement du temps, bien souvent, rend beaucoup plus difficile ce type de preuve-là.
On passe à un prochain sujet, Maître Bellemare, puis je trouve que c'est un sujet qui va en intéresser plus d'un. L'alcool au volant, ça coûte combien perdre son permis de conduire? C'est le magazine L'Actualité qui s'est penché là-dessus. Pour avoir d'ex-collègues de travail puis des chums qui ont déjà perdu leur permis de conduire en raison de l'alcool au volant, je pense que l'ego, pour la plupart, est touché, extrêmement gros, de te faire arrêter devant tout le monde comme ça, de te faire mettre les menottes, de te faire mettre dans le véhicule de police, de te rendre jusqu'à la centrale de police pour repasser d'autres tests, pour ton alcoolémie. C'est une humiliation totale. Et là, après ça, ben, c'est la rencontre avec la justice, le juge qui te déclare coupable ou non. S'il te déclare coupable, ben là, tu vas devoir devoir t'abstenir de conduire pendant un certain temps. Par la suite, tu vas avoir, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, Maître Bellemare, je pense, nous autres, on appelait ça le souffleux, là. Donc, tu vas avoir le souffleux pendant des semaines et des semaines, les kilomètres, que tu vas devoir louer. T'sais. C'est toi qui vas devoir louer le souffleux pour pouvoir conduire ton propre véhicule. Ça a l'air que ça sonne, cette affaire-là, à chaque 2-3 minutes, incluant quand tu roules. Donc, il y a des gens nécessairement qui vont te voir souffler dans le souffleur. Tes enfants vont te demander c'est quoi. Tes enfants vont apprendre que t'as perdu ton permis de conduire. Ton dossier criminel, ton employeur qu'il faut que t'informes parce que là, t'es rendu avec un dossier criminel dans certains cas. C'est le cas, entre autres, si vous travaillez pour un syndic autorisant l'insolvabilité, vous devez absolument le mentionner. Si vous travaillez en assurance, vous devez dire que vous avez un dossier criminel. Si vous êtes policier, vous perdez votre job. Si vous êtes pompier, ben là, ça peut dépendre. C'est l'alcool au volant, c'est, oui, ça coûte extrêmement cher, mais la vie aussi va te coûter cher par la suite.
Oui, c'est ça. Puis regarde, c'est une évaluation qui a été faite par, je pense, c'est Ducalois en fin de semaine qui nous présentait ce type de proposition-là que j'ai trouvé très, très raisonnable parce qu'on parle souvent de l'alcool au volant. On sait que la première infraction, 0.08, une amende de 1 000 piastres, puis une interdiction de conduire complète pendant un an, mais il n'y a pas d'évaluation des sommes. Mais Joe Bin, qui se fait arrêter avec 0.14 ou 0.17 d'alcool dans le sang, d'abord son permis, il y a un remorquage du véhicule automatiquement et il y a un entreposage pendant 30 jours. Alors, un remorquage, on évalue ça à peu près à 125 piastres. Je trouve que c'est raisonnable. Entreposage 30 jours à 25 piastres par jour, et ça, c'est vraiment le minimum, parce que entreposer un char à 25 piastres par jour, je trouve que c'est pas cher. Mais tu vois, il évalue tout de suite à peu près à 750 piastres. Avec le remorquage, on est déjà rendu à 875 piastres. Là, tu as une suspension administrative du permis pendant 90 jours. Puis là, tu vas avoir différentes évaluations à passer. Une évaluation sommaire qui coûte à peu près 350 piastres. Si tu échoues l'évaluation sommaire par des spécialistes en réadaptation, tu vas avoir une évaluation complète qui va te coûter à peu près 800 piastres. On est rendu à peu près à 3 000 piastres avec les frais d'entreposage. Les kilomètres, là, l'installation plus la location pendant un an, tu es rendu à peu près à 3 000 piastres. Là, il y a les frais d'avocat, là. Puis, ils évaluent eux autres, là, à partir de l'enquête qu'ils ont faite auprès d'un certain nombre de bureaux qui font des cas d'alcool au volant, autour de 5 000 à 20 000 piastres pour un cas compliqué. Je trouve que 5 000 piastres pour un cas d'alcool au volant, c'est pas mal dans les règles. Moi, j'en fais pas de ces causes-là, là, mais je connais des collègues qui en font. Et 5 000 piastres pour l'ensemble de ce que ça peut demander, l'enquête, des fois des expertises qu'il faut faire, les entrevues, les vacations au tribunal, les représentations auprès du juge. Mais ça, à 5 000, tu es rendu déjà à 10 000 piastres. Tu sais que la SAC exige une contribution de 403 piastres pour une première infraction. Puis ça, ben c'est ça veut dire que au fond, alcool au volant, au-delà de 0.08, tu t'embarques dans une patente qui va te coûter probablement, si tu tiens compte de l'ensemble des dépenses, les droits, la réadaptation, les kilomètres, l'entreposage, tu vas te retrouver avec une facture qui va être entre 10 et 20 000 piastres, d'après moi. Et comme tu disais tantôt, ben ça a un impact sur ta famille. Le déshonneur que ça jette sur ta famille, le déshonneur que ça jette sur toi parce que tu as un dossier criminel. C'est pas une infraction au code de la sécurité routière, sauf que tu roules 125 sur l'autoroute. Là. C'est un dossier criminel. Alors, ça peut avoir un impact sur bien des choses, notamment les déplacements aux États-Unis, les voyages, les critères d'embauche, le permis de conduire qui peut être, dont la suspension peut être prolongé et les problèmes que ça peut te causer au travail, parce que tu peux perdre ta job à cause de ça. Si tu es livreur là, ou si tu es camionneur, là, tu vas perdre ta job complètement. Puis dans certains milieux de travail, on ne tolérera pas qu'il y ait un dossier criminel. Si tu travailles dans la finance, si tu veux aller à l'école pour obtenir un diplôme pour un ordre professionnel, ça pourrait te bloquer. Alors, c'est ça qu'ils devraient mettre dans la publicité de la SAC, Yannick, là. Tu sais, quand ils te montrent un gars qui est à moitié mort et qui est plein de sang dans l'auto, là. Oui, ça dérange parce que, mais c'est pas tout le monde qui a de l'alcool au volant qui va être blessé, là. Il y a beaucoup de gens qui se blesseront jamais et qui ne blesseront jamais personne. Il y a une blessure intérieure, une blessure narcissique. C'est l'honneur, c'est la dignité qui est blessée. Et ce genre de démonstration-là pourrait peut-être convaincre pas mal de monde de ne pas conduire en état d'ébriété parce que les problèmes financiers qui sont rattachés à ça sont immenses. Et ça, c'est pas tellement connu, malheureusement.
Est-ce qu'il y a encore énormément de gens qui contestent leur arrestation pour alcool au volant? J'ai l'impression qu'avant, c'était beaucoup plus facile, mais le gouvernement a mis des choses en place. Je me rappelle de la règle du dernier verre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Ouais.
C'est pour faire une histoire courte, puis corrigez-moi si je me trompe, là, mais ce qu'un avocat criminaliste m'avait expliqué, c'est que vous pouvez partir du bar, mais juste avant de partir, vous prenez un shooter. Et là, vous prenez la route, puis vous êtes à 20 minutes de la maison, puis rendu dans le stationnement chez vous, ben, il y a un policier qui vous intercepte, puis il est derrière vous, puis vous demande de souffler dans le ballon. Ben là, vous pouviez dire, c'est mon dernier verre que j'avais pas encore eu le temps de gérer, qui a fait la différence. Donc, pendant que je conduisais, j'étais correct, puis là, ben, je pète la balloune alors que je suis rendu chez nous. Donc, les gars et les filles plaidaient le fameux dernier verre. Puis le gouvernement s'est
Oui.
aperçu que c'était comme une faille dans le système. Donc, il a décidé d'enlever ça aussi. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup mo de moins en moins de gens qui te contestent. Puis, il y a des agents évaluateurs maintenant chez les policiers, là. C'est pas tous les policiers qui sont agents évaluateurs, mais il y a des agents évaluateurs sur chaque corps de travail maintenant, qui sont là pour vous recevoir à la centrale de police, puis qui vont calibrer les outils nécessaires pour faire le deuxième test à la centrale de police, qui, lui, ben, va révéler votre taux d'alcoolémie exact dans le sang. C'est pas le même appareil que vous soufflez là, à côté du char de police, là. C'est des appareils plus calibrés, et ça, c'est de plus en plus béton comme preuve devant la cour, là.
Oui, c'est de plus en plus difficile de se défendre dans ce genre d'accusation-là. On a vu déjà des cas où il y avait un chimiste là, qui faisait toujours des entourloupettes, là, il vérifiait là, la quantité d'alcool qui avait été consommée. Puis le gars disait, moi, j'ai pris juste deux bières alors qu'il en avait pris huit. Là, tu avais un chimiste qui arrivait avec des chiffres très savants qui essayait de prouver qu'effectivement, ça correspondait davantage à deux bières. Donc, il mêlait le juge un peu, il créait un doute raisonnable. Le juge disait, ben écoutez, j'ai pas la conviction ferme et absolue que ce monsieur-là est en état d'ébriété. Alors, il y avait un acquittement qui était prononcé. On en a vu beaucoup comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué. Et je te dirais que ça suit un petit peu les mentalités, hein? Les gens sont de plus en plus intolérants face à l'alcool au volant. Dans les années 80, il y avait jusqu'à 25 000 cas de condamnation. Aujourd'hui, ça a beaucoup diminué. Je me demande si on n'est pas autour de 12 000 à peu près par année au Québec. Donc, il y a beaucoup moins de cas d'alcool au volant. Il y a moins d'accusations puis de condamnations parce que les gens sont plus prudents. Il y a quand même de la sensibilisation qui fait du chemin, mais il y a encore des gens qui vont conduire avec 0,25, 0,30 d'alcool dans le sang. On en voit dans les médias régulièrement. Et c'est bien dommage, mais on ne peut pas dire que notre code de sécurité routière et que notre code criminel n'ont pas été modifiés au fil des années dans le but de combattre ce fléau-là. Mais j'insiste, les chiffres que j'ai donnés tantôt qui nous disent que une première condamnation, ça représente entre 10 et 20 000 piastres de dépenses. Ces chiffres-là devraient être connus davantage. On devrait dire aux gens, voici, si vous êtes intercepté, tasse d'alcool dans le sang, voici la facture que vous allez devoir payer. Je te jure, Yannick, là, que ça aurait beaucoup d'effet, puis plus parce que quand tu touches au portefeuille, ça a un impact. De dire aux gens, oui, mais là, tu vas peut-être frapper quelqu'un, tu vas peut-être te blesser, ça n'a pas d'impact. Ou très peu, parce que les gens sont convaincus que ça ne leur arrivera pas à eux. Mais s'ils savent qu'il va y avoir une facture de 10 à 20 000 piastres à payer, là, tu risques d'avoir des résultats.
Il y avait déjà, c'est Chris Jeffrey-Lenz qui avait déjà parlé de ça, qui est actuellement la ministre des Finances, mais elle avait dit, si vous avez été condamné au criminel pour alcool au volant, nous, ce qu'on aimerait faire du côté du fédéral et mettre en place, c'est qu'à partir du moment où vous avez été 10 ans sans avoir de problème avec la police, bien, on vous enlèverait votre casier judiciaire ou le casier judiciaire serait peut-être suspendu, là, un peu comme quand vous faites une demande de pardon. Puis, de ce que je vois, ça semble avoir été oublié par Christopher Freeland parce qu'elle n'est jamais revenue avec cette idée-là. Est-ce que ça aurait été une bonne affaire? Un 10 ans avec un dossier criminel, puis après ça, ben, on le met de côté parce que tu es un bon citoyen. Quand il s'agit
Ouais.
d'une infraction.
Bon, et ça, c'est, tout est possible, mais les libéraux de Trudeau, ils ont tendance à être assez ouverts sur la question de la criminalité. Ça ne m'étonne pas que Mme Freeland en ait parlé. Ben, on a vu encore aujourd'hui dans les médias un homme qui a été condamné à une peine dans la communauté pour agression sexuelle. C'était pas possible avant, il y a quelques années, quand les libéraux ont modifié le code criminel par la loi C-5, qui ont permis que même dans des cas d'agression sexuelle, il soit possible d'avoir une peine à la maison. C'est avec quoi je suis en total désaccord.
Ouais.
Pour moi, une
Ça,
agression sexuelle devrait y avoir une peine de prison
c'était
minimalement.
parti. Ça avait été pris en compte en raison des statistiques qui démontraient qu'il y avait beaucoup trop d'Autochtones et de personnes
Ouais.
racisées en prison. Donc,
Ça, c'est
ce
le
qui.
prétexte de David Lametti, qui est plus ministre de la Justice, puis je suis bien content, parce que c'était son prétexte en 2018. Il avait dit, il y a trop de surpopulation carcérale chez les Autochtones, on va adopter la loi C-5. Et la loi C-5 qui permet justement d'avoir des peines à la maison pour les agressions sexuelles, ça donne que c'est surtout des Blancs qui en profitent et non pas des Autochtones,
Ouais.
n'importe quoi.
Parce que le
On
juge.
met un titre vendeur pour essayer de dire on s'intéresse aux Autochtones par leur problématique de
Ouais.
criminalité. Mais dans les faits, on veut permettre à des Blancs de pouvoir manger des chips et écouter Netflix à la maison plutôt que d'être en prison
Mais c'est
puis
ça, c'est
de
parce que
réfléchir sur leurs crimes.
le juge peut pas prendre en considération la couleur de la peau de l'individu là pour y donner une sentence suspendue ou une sentence à la maison.
Non, il peut, le juge, décider qu'il y a de la prison. Il peut, mais il peut aussi permettre une peine à la maison, ce qui n'était pas possible avant 2018, avant que la loi C-5 soit adoptée. Quand on dit la loi C-5, c'est parce que les projets de loi au fédéral sont tous précédés d'un C, comme Canada ou Chambre des communes. Donc, c'est C-5, C-75 qui sont les deux lois que Trudeau a votées. Alors que Mme Freeland avait pensé peut-être effacer un dossier criminel après 10 ans. De bons comportements routiers, ça m'étonne pas, mais c'est à ma connaissance, ça n'a pas été fait.
Parce que ça change une vie, là. Je le répète, là. Si vous faites une job où vous n'avez pas le droit d'avoir de casier judiciaire, ça vous met dans le trouble, vous perdez votre job. Vous avez dit les chauffeurs de camions, ben effectivement, ils ont besoin de leur
Les
permis de conduire.
policiers aussi, hein?
Policiers, quand vous travaillez en assurance aussi, ça peut être une problématique. Donc, faut y penser deux fois. Faut y penser deux fois. Puis je sais que les démarches pour faire suspendre son casier criminel, c'est au-delà d'un an à peu près maintenant, là. Avant, c'était 6 mois. Puis là, ben, comme il y en a eu plusieurs qui voulaient se faire pardonner, ben, on est rendu à presque plus d'un an actuellement. C'est les gars d'Identification Québec, là, qui me racontaient ça. D'Identité Québec,
Ouais.
pardon, qui me racontaient ça. Puis qu'eux autres sont prêts à vous aider si jamais vous voulez faire suspendre votre dossier criminel. En même temps, il disparaît pas, hein. C'est important de le dire aussi, là. Votre dossier criminel ne disparaît pas. C'est juste que vous n'avez plus besoin de dire que vous avez un casier criminel ou pas. Il est suspendu, mais la justice va se souvenir de vous. N'ayez crainte, les amis. OK. Hey, nous, Maître Bellemare, on va faire une courte pause si vous le voulez bien. Je répète aux auditeurs, si vous avez des choses pour nous, vous êtes nos yeux, nos oreilles, 418-971-1021, 418-971-1021. On est avec.
Ce soir, et Marceau, le soir, le soir, le soir.
Maître Marc Bellemare, qui a plus de quoi 40 ans de radio de fait dans le corps. Beaucoup de millages, Maître Bellemare. Hein?
Pas pire, hein, quand même, quand tu regardes ça, là, mais encore, j'ai encore toutes mes dents. Je suis bien content. Il y a beaucoup de radio, effectivement. avec plusieurs personnes. J'ai parlé à beaucoup de monde dans ma vie à la radio et j'ai toujours aimé ce médium-là qui est très, très décontracté et qui, comme je le disais tantôt, présente une certaine proximité parce qu'on a l'impression de parler dans l'oreille des gens. Ouais. Et ça, c'est bien plaisant.
Allez-vous aller sur Facebook tantôt, Maître Bellemare, pour assister à ce que moi, je vais assister en personne, c'est-à-dire le band Papa Roach qui est en spectacle à la scène Le Bourgneuf. Donc, il va être avec nous autres, puis une centaine d'auditeurs. Si vous voulez vous joindre à nous, on va être sur Facebook où on va diffuser le spectacle live. Donc,
c'est bon.
Aussitôt qu'on va raccrocher ensemble, vous et moi, ben, vous pouvez aller écouter le spectacle qui va débuter dans les prochaines minutes. On parle, Maître Bellemare, de logement. Quatre choses à savoir sur les rénovictions. Au cours de la dernière année, ce qu'on peut apprendre, c'est qu'il y a 3% des locataires à la grandeur du Canada qui ont vécu une rénoviction, ce qui représente à peu près quoi, 45 000 ménages seulement au Québec. Et l'un des motifs évoqués par les propriétaires, ben, excusez, vous devez partir, je dois faire des rénovations majeures et vous devez quitter. Ou encore, il y a une autre technique que les propriétaires utilisent, c'est « j'ai besoin de ce logement-là pour quelqu'un de ma famille ou encore pour moi-même ». Les gens restent là peut-être une, deux, trois semaines, le temps de faire les rénovations et par la suite remettre le logement sur le marché de la location. C'est triste, les rénovictions.
Oui, mais on parle d'à peu près 45 000 ménages juste au Québec. 3% des locataires au Canada, c'est en augmentation. Donc, c'est devenu un des moyens privilégiés par les propriétaires pour se débarrasser des locataires. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Je pense qu'il faut quand même donner, considérer que la bonne foi se présume et que les propriétaires, généralement, sont de bonne foi, mais il y en a qui vont certainement utiliser les rénovictions comme étant un prétexte. Alors, c'est quoi une rénoviction, Yannick? Ce n'est pas changer une poignée de porte, là, ou changer une moulure dans le bas d'un mur. Une rénoviction, là, c'est des projets comme transformer ton logement en deux ou plusieurs logements plus petits. Donc, c'est une transformation radicale. On prend un 6,5 et on en fait 2, 3,5. Ça, c'est une rénovation. Démolir ton logement ou le fusionner avec d'autres logements, c'est la même chose. Agrandir ton logement de manière importante, par exemple, quand tu en rajoutes une pièce, ou transformer ton logement en bureau ou en surface commerciale. Ça s'appelle des rénovations, et c'est ce genre de travaux-là qui constitue une rénoviction. Rénoviction, c'est un peu un terme péjoratif qui veut dire on profite des rénovations majeures pour évincer un locataire. Donc, rénovation, éviction, ça donne le terme rénoviction, qui est considéré comme étant un phénomène qui vise à se débarrasser d'un locataire, à l'évincer par des rénovations. Il y a des délais respectés et ces délais-là, c'est qu'il faut que tu donnes un avis au moins 6 mois d'avance. Alors, pour un propriétaire, par exemple, qui est le bail classique, là, si tu renouvelles chaque année, l'avis doit être donné au moins 6 mois avant le renouvellement si tu veux réaliser ton projet. Ça veut dire que si ton bail se termine au 30 juin, il faut que tu donnes l'avis avant le 1er janvier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en juin 2024 et c'est certain qu'en juin 2024, il est trop tard, que le propriétaire ne peut pas t'envoyer un avis pour dire tu t'en vas, je fais des rénovictions à partir du 1er juillet. C'est bien sûr que ce n'est pas possible. Il faudrait qu'ils attendent au moins l'année prochaine. Aussi savoir qu'il peut y avoir un dédommagement. Il doit le propriétaire, dans ces cas-là, compte tenu que c'est lui qui prend l'initiative, il doit te donner au minimum une indemnité qui équivaut à 3 mois de loyer. Mais si ça fait plus de 3 ans que tu occupes le loyer, il doit te donner un mois de loyer pour chaque année de location. C'est-à-dire, si ça fait 7 ans, par exemple, que tu occupes ton logement, il doit te donner une indemnité qui correspond à 7 mois. Mais l'indemnité ne peut pas excéder 24 mois de loyer. Ça veut dire que si ça fait 40 ans que tu es là, tu ne pourras pas avoir plus que 24 mois de loyer, ce qui correspond à 24 ans. Mais retenez là, que c'est un mois de dédommagement pour chaque année où tu as été locataire du logement en question. Puis le dernier point, c'est que en cas de rénovation, si les travaux de rénovation sont nécessaires, même pour un cas de rénovation ou de réparation simple, donc je ne sais pas si le propriétaire veut changer, par exemple, toute la plomberie ou toute l'électricité, à ce moment-là, ton logement va être inhabitable temporairement. Là, je ne parle pas de rénovation majeure, mais de rénovation qui demande que tu ne sois pas sur les lieux parce qu'il y a du brin de scie, il y a de la poudre, de la poussière, il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a des vernis, il y a des odeurs toxiques. Alors, à ce moment-là, pendant quelques temps, tu vas être obligé d'aller vivre à l'extérieur. À ce moment-là, le propriétaire va devoir te payer une différence de loyer, les frais de transfert, les frais d'entreposage puis de déménagement, le temps que tu vas devoir être privé de ton logement. Mais ça, on parle de rénovations qui ne sont pas extrêmes, qui ne sont pas des changements majeurs au niveau de la configuration du logement, de l'agrandissement ou du rétrécissement du logement, mais qui, donc, le logement demeure dans le même format, mais il y a des travaux qui doivent être faits qui exigent que la personne locataire soit temporairement absente pour cause d'inhabitabilité du logement. À ce moment-là, c'est pas, il n'y a pas d'indemnité comme telle, sauf pour toutes les dépenses que ça peut occasionner. Fait que c'est quand même assez, assez sévère, assez encadré. Et si c'est ce qui vous arrive, ben, ce n'est pas mauvais de consulter un avocat. Ça veut dire que si les travaux majeurs de rénovation, de rénoviction sont prévus pour 2025, vous allez recevoir un avis de votre propriétaire avant le 31 décembre prochain. Puis c'est peut-être pas mauvais de consulter un avocat à ce moment-là pour essayer de négocier des conditions qui vont être à la hauteur de ce que je viens de dire.
Puis en même temps, il faut savoir qu'est-ce qui pousse les propriétaires à faire ce type d'acte-là avec des locataires. Si le locataire est là depuis 20 ans, puis qu'on est rendu au deuxième, troisième, quatrième propriétaire, les gens qui ont laissé vivre cette personne-là à l'intérieur des logements avec de légères augmentations de salaire, avec l'inflation, avec le fait que si on achète un édifice à logement, ça coûte de plus en plus cher, bien le nouveau qui va avoir une grosse hypothèque, lui... Ben, il y a des paiements à faire. Puis il veut pas nécessairement, comme c'est un investissement, il veut pas nécessairement faire sortir tout l'argent de ses poches. Donc, ce qu'il va vouloir, c'est que la plupart des locataires payent leur dû, puis soit à peu près l'équivalent de ce que ça peut coûter en paiement hypothécaire. Donc, on peut comprendre, d'un côté, le propriétaire investisseur qui veut pas perdre de l'argent, toujours en sachant qu'il y a effectivement des mauvais payeurs au travers du lot, malheureusement. Mais ça. C'est des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, des fois, qui vont écoper parce que leur 4,5 va être à 650$, mais les autres 4,5 qui vont se louer dans l'année à l'intérieur de la bâtisse vont être rendus à 1300, 1400, 1500$. Donc, le nouveau propriétaire dit « Ben moi, je ne veux pas sortir trop d'argent de mes poches à chaque mois en raison du fait que la locataire qui est là depuis 30 ans ne paye pas le loyer qu'elle est supposée de payer. » Donc, on comprend que c'est humain, mais en même temps, sortir une dame de 70 ans de là puis y dire « Va-t'en ailleurs, on veut plus de toi », c'est tellement cruel, c'est tellement contre-éthique.
Oui, bien, puis la ministre Durand-Lau a présenté un projet de loi il n'y a pas longtemps pour en interdire ce genre de pratique-là, dans le cas où c'est des gens qui sont âgés de 65 ans et plus, c'est correct, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais il demeure que c'est à raison, le propriétaire, un individu qui achète, je sais pas moi, un immeuble de 6 ou de 12 logements, rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, donc trois niveaux, et qui veut rénover, ben, tu sais, je veux dire, il veut augmenter ses loyers, il veut rentabiliser son immeuble parce qu'on est quand même dans une économie capitaliste. Il faut comprendre qu'il n'y a pas un propriétaire qui va garder un building qui n'est pas rentable. C'est certain. Alors, il y a une économie de marché. Être propriétaire immobilier, c'est comme avoir n'importe quel autre genre de business. Il faut que ça soit rentable. Si ce n'est pas rentable, tu n'achèteras jamais l'immeuble. Puis là, on va subir une décrépitude importante du stock locatif, ce qui n'est pas nécessairement une meilleure chose pour qui que ce soit. Alors, si on veut encourager les propriétaires à faire quelques sous puis à rentabiliser leur immeuble, il va falloir qu'ils puissent faire des rénovations majeures. Alors, l'individu qui achète un immeuble de 12 logements, qui décide qu'au rez-de-chaussée, il va faire du commercial parce que c'est possible, bien, il va sortir tout le monde du rez-de-chaussée. Il va faire des rénovations majeures pour transformer les logements en espaces locatifs commerciaux. Puis ça, il a le droit de le faire en autant qu'il donne l'avis avant le 31 décembre pour des gens qui doivent quitter pour le 30 juin prochain. Il va avoir un montant à payer en dédommagement, mais il va reprendre le contrôle de sa bâtisse. Il va transformer tous les logements du rez-de-chaussée en locaux commerciaux. Puis premier, deuxième étage, tant qu'à mettre le pic-pé-appel là-dedans, tant qu'à faire des travaux, il peut faire des travaux sur le premier, deuxième étage aussi et convertir des 5 puis des 6,5 en 2,5 puis 3,5. Et il va rentabiliser sa bâtisse considérablement par la suite. Il va créer de l'emploi, il va favoriser le développement de nouveaux logements. Il va rendre ses logements plus confortables et il va investir des milliers, des centaines de milliers, des millions de dollars dans ces travaux-là. Et voilà. Alors, le logement, c'est vrai qu'il y a une crise du logement actuellement, puis c'est triste, ça donne lieu à toutes sortes de drames. Mais en même temps, faut jamais oublier qu'il y a des propriétaires qui sont propriétaires de ces immeubles-là. Puis si on veut qu'ils continuent d'investir dans le stock de logements, bien, il va falloir leur donner au moins la possibilité de le faire quand ils ont l'intention d'investir. Et le gouvernement doit s'assurer que la volonté d'investir demeure, parce que c'est la seule garantie de conserver puis de développer un stock de logements acceptable, de bonnes conditions, des bonnes conditions de chauffage, des bonnes conditions de ventilation, des bonnes conditions de sonorisation. Ça passe par des investissements. C'est pas François Legault qui va investir là-dedans, c'est les propriétaires privés qui vont le faire.
Mais on s'entend pour dire que c'est d'une tristesse là, quand notre loyer passe d'un loyer qui est de 750 à un loyer ajusté à 1350, ça fait une différence dans le budget comme pas possible pour les gens qui sont moins bien nantis. Puis de l'autre côté, ben propriétaires investisseurs, ça le dit, les gens sont pas là pour perdre l'argent. Ça peut être assez particulier dans les deux cas.
Mais tu te souviens de Pierre Poilievre qui disait que la mairesse Plante à Montréal était incompétente en matière de logement, puis M. Marchand aussi. La semaine passée, c'est drôle parce que dans l'actualité, on a eu la preuve noir sur blanc que Mme Plante était incompétente en matière de logement avec les délais incroyables pour pouvoir obtenir des permis de construction puis de rénovation. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un au Québec qui défend que la mairesse Plante n'est pas incompétente en matière de logement? Mais Pierre Poilievre a eu le courage de le dire il y a 3 mois. Puis aujourd'hui, on voit qu'il avait raison. Alors, essayons de trouver un autre terme pour qualifier un maire ou une mairesse d'une ville qui présente des délais de centaines et même de milliers de jours de délai avant d'obtenir un permis, alors qu'il y a une crise du logement, tu sais. Alors, Québec, j'ai hâte de voir les chiffres. Je pense qu'on sera pas loin de Montréal.
Bien, ça s'est amélioré depuis justement le qualificatif particulier de Pierre Poilievre où il a traité Bruno Marchand et Valérie Plante d'incompétents. À Québec, je peux vous le dire, pour avoir des amis investisseurs, ça a changé beaucoup. Les délais sont moins longs et le téléphone, on répond maintenant. On laisse pas juste le répondeur. C'est ce qu'on nous a dit. Puis d'ailleurs, ça a été confirmé par Trudel Alliance, là, donc les frères Trudel qui considèrent que depuis, ben, ils m'ont pas dit à moi personnellement ça, mais depuis la sortie de Pierre Poilievre, il y a une autre attitude à la ville de Québec et ça semble bénéficier aux gens de Québec par le fait même. Puis je salue le groupe Trudel Alliance qui ont trouvé un endroit pour que la bouchée généreuse puisse s'installer pendant quelques mois, le temps de faire bâtir leur nouvel emplacement. Ils vont être en face de l'ancien Sears à place Fleur de Lys, Maître Bellemare.
Ah, c'est bon.
Tu sais, l'ancien garage, là, le...
Oui.
Bon, ben ils vont être là, la bouchée généreuse, donc les gens qui sont moins bien nantis, qui vont vouloir aller se chercher de la nourriture, ben ils vont pouvoir être au chaud à cet endroit-là, alors que la Ville de Québec n'a jamais daigné essayer de les aider. Ben c'est l'investissement, les investisseurs privés qui ont décidé de prendre la bouchée généreuse sous leur aile, puis ça, je pense que c'est important de le souligner. Maître Bellemare, pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, on écrit ou on s'en va directement sur le site bellemareavocat.ca.
Absolument. Avec plaisir.
C'est toujours un plaisir. Passez donc une belle semaine, puis on se reparle lundi prochain. Moi, je m'en vais au show de Papa Roach dans les prochaines secondes.
Bravo!
J'ai 3 étages à faire. Donc, je pars des studios de Leclerc Communication, puis je m'en vais 3 étages plus bas, puis je vais avoir le band Papa Roach juste pour moi avec 100 d'auditeurs. J'invite tout le monde à aller directement sur la page Facebook dans les prochaines minutes parce qu'on va vous mettre le lien live de ce que nous, on va vivre en bas. Donc, si vous voulez faire partie de la grande famille Leclerc Communication, publication. Vous pouvez venir nous rejoindre parce que c'est exactement ça qu'on va être, une belle grosse famille ensemble avec les superstars de Papa Roach. Donc, à tout de suite, les amis. Puis, Maître Bellemare, ben, je vous invite
Yannick,
aussi.
Tu dois faire une bonne vie pour avoir la chance de même, toi.
Non. C'est juste que je bénéficie d'un programme particulier avec le gouvernement. Donc, quand les gens m'embauchent, ils ont une subvention qui vient avec.
C'est ça. J'en doute pas.
Maître Bellemare, bonsoir.
C'est beau. Bonne semaine.
Salut tout le monde. Bye-bye.